Chapitre 6. Voyage à Rome. Thérèse retardée pour le Carmel. 3 jours après le voyage de Bayeux, je devais en faire un beaucoup plus long, celui de la ville éternelle. À quel voyage que celui-là ? Lui seul m'a plus instruite que de longues années d'études. Il m'a montré la vanité de tout ce qui se passe, et que tout est affliction d'esprit sous le soleil. Cependant, j'ai vu de bien belles choses, j'ai contemplé toutes les merveilles de l'art et de la religion. Surtout, j'ai foulé la même terre que celle que les saints apôtres, la terre arrosée du sang des martyrs, et mon âme s'est agrandie au contact des choses saintes. Je suis bien heureuse d'avoir été à Rome, mais je comprends les personnes du monde qui pensèrent que papa m'avait fait faire ce grand voyage afin de changer mes idées de vie religieuse. Il y avait en effet de quoi ébranler une vocation peu affermie. N'ayant jamais vécu parmi le grand monde, Céline et moi nous trouvâmes au milieu de la noblesse qui composait presque exclusivement le pèlerinage. Ah, bien loin de nous éblouir, tous ces titres et ces deux nous parurent qu'une fumée. De loin, cela m'avait quelquefois jeté un peu de poudre aux yeux. Mais de près, j'ai vu que tout ce qui brille n'est pas or, et j'ai compris cette parole de l'imitation. Ne poursuivez pas cette ombre qu'on appelle un grand nom. Ne désirez ni de nombreuses relations, ni l'amitié particulière d'aucun homme. J'ai compris que la vraie grandeur se trouve dans l'âme, et non dans le nom. Puisque comme le dit Isaïe, le Seigneur donnera un autre nom à ses élus. Et saint Jean dit aussi que le vainqueur recevra une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom nouveau, que nul ne connaît que celui qui le reçoit. C'est donc au ciel que nous saurons quels sont les titres de noblesse. Alors chacun recevra de Dieu la louange qu'il mérite, et celui qui sur la terre aura voulu être le plus pauvre, le plus oublié pour l'amour de Jésus, celui-là sera le premier, le plus noble et le plus riche. La seconde expérience que j'ai faite regarde les prêtres. N'ayant jamais vécu dans leur intimité, je ne pouvais comprendre le but principal de la réforme du Carmel. Prier pour les pécheurs me ravissait, mais prier pour les âmes des prêtres, que je croyais plus pures que le cristal, me semblait étonnant. Ah, j'ai compris ma vocation en Italie. Ce n'était pas aller chercher trop loin une si utile connaissance. Pendant un mois, j'ai vécu avec beaucoup de saints prêtres, et j'ai vu que si leur sublime dignité les élève au-dessus des anges, ils n'en sont pas moins des hommes faibles et fragiles. Si de saints prêtres que Jésus appelle dans son évangile le sel de la terre montrent dans leur conduite qu'ils ont un extrême besoin de prière, que faut-il dire de ceux qui sont tièdes? Jésus n'a-t-il pas dit encore, si le ciel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Ô ma mère, quelle est belle la vocation ayant pour but de conserver le sel destiné aux âmes. Cette vocation est celle du Carmel, puisque l'unique fin de nos prières et de nos sacrifices est d'être l'apôtre des apôtres, priant pour eux qu'ils évangélisent les âmes par leurs paroles et surtout par leur exemple. Il faut que je m'arrête. Si je continue de parler sur ce sujet, je ne finirai pas. Je vais, ma mère chérie, vous raconter mon voyage, après quelques détails. Pardonnez-moi si je vous en donne trop, je ne réfléchis pas avant d'écrire, et je le fais en tant de fois différentes, à cause de mon peu de temps libre, que mon récit vous paraîtra peut-être ennuyeux. Ce qui me console, c'est de penser qu'au ciel, je vous reparlerai des grâces que j'ai reçues, et que je pourrai le faire alors en termes agréables et charmants. Plus rien ne viendra interrompre nos épanchements intimes, et dans le seul sincère regard, vous aurez tout compris. Hélas, puisqu'il me faut encore employer le langage de la triste terre, je vais essayer de le faire avec la simplicité d'un petit enfant qui connaît l'amour de sa mère. Ce fut le 7 novembre, que le pèlerinage partit de Paris. Mes papas nous conduisit dans cette ville quelques jours avant pour nous la faire visiter. Un matin, à 3 heures, je traversais la ville de Lisieux, encore endormie. Bien des impressions passèrent dans mon âme à ce moment. Je sentais que j'allais vers l'inconnu, et que de grandes choses m'attendaient là-bas. Papa était joyeux. Lorsque le train se mit en marche, il chanta ce vieux refrain. « Roule, roule, ma diligence, nous voilà sur le grand chemin. » Arrivés à Paris dans la matinée, nous commençâmes aussitôt à le visiter. Ce pauvre petit père se fatigua beaucoup afin de nous faire plaisir. Aussi, nous eûmes bientôt vu toutes les merveilles de la capitale. Pour moi, je n'en trouvais qu'une seule qui me ravit. Cette merveille fut Notre-Dame des Victoires. Ah, ce que j'ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire. Les grâces qu'elle m'accorda m'émurent si profondément que mes larmes seules traduisirent mon bonheur. Comme au jour de ma première communion. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guéri. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Aussi je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman, car il me semblait encore plus tendre que celui de mère. Avec quelle ferveur n'allais-je pas prier de me garder toujours et de réaliser bientôt mon rêve, et me cachant à l'ombre de son manteau virginal. Ah, c'était là un de mes premiers désirs d'enfant. En grandissant, j'ai compris que c'était au Carmel qu'il me serait possible de trouver véritablement le manteau de la Sainte Vierge. Et c'était vers cette montagne fertile que tendaient tous mes désirs. Je suppliais encore Notre-Dame des Victoires d'éloigner de moi tout ce qui aurait pu ternir ma pureté. Je n'ignorais pas qu'en un voyage comme celui de l'Italie, il se rencontrerait bien des choses capables de me troubler. Surtout parce que, ne connaissant pas le mal, je craignais de les découvrir. Et n'ayant pas expérimenté que tout est pur pour les purs, et que l'âme simple et droite ne voit de mal à rien, parce qu'en effet le mal n'existe que dans les cœurs impurs et non dans les objets insensibles. Je prie aussi Saint-Joseph de veiller sur moi. Depuis mon enfance, j'avais pour lui une dévotion qui se confondait avec mon amour pour la Sainte Vierge. Chaque jour, je récitais la prière. Ô Saint-Joseph, Père et Protecteur des Vierges. Ainsi, aussi, ce fut sans crainte que j'entrepris mon lointain voyage. J'étais si bien protégée qu'il me semblait impossible d'avoir peur. Après nous être consacrés au Sacré-Cœur dans la basilique de Montmartre, nous partîmes de Paris le lundi 7, dès le matin. Bientôt, nous eûmes fait connaissance avec les personnes du pèlerinage. Moi, si timide, qu'ordinairement j'osais à peine parler, je me trouvais complètement débarrassée de ce gênant défaut. À ma grande surprise, je parlais librement avec toutes les grandes dames, les prêtres et même Monseigneur de Coutances. Il me semblait avoir toujours vécu dans ce monde-là. Nous étions, je crois, bien aimés de tout le monde et papa semblait fier de ses deux filles. Mais s'il était fier de nous, nous l'étions également de lui, car il n'y avait pas tant, dans tout le pèlerinage, un monsieur plus beau ni plus distingué que mon roi chéri. Il aimait à se voir entouré de celui aîné de moi. Souvent, lorsque nous n'étions pas en voiture et que je m'éloignais de lui, il m'appelait afin que je lui donne le bras, comme à des yeux. Monsieur l'abbé Réveroni examinait soigneusement toutes nos actions. Je le voyais souvent de loin qui nous regardait. À table, je n'étais pas en face de lui, il trouvait moyen de se pencher pour me voir et entendre ce que je disais. Sans doute, il voulait me connaître pour savoir si vraiment j'étais capable d'être carmélite. Je pense qu'il a dû être satisfait de son examen, car à la fin du voyage, il parut bien disposé pour moi. Mais à Rome, il a été loin de m'être favorable. Comme je vais le dire plus loin, avant d'arriver à cette ville éternelle, but de notre pèlerinage, il nous fut donné de contempler bien des merveilles. D'abord, ce fut la Suisse, avec ses montagnes, dont le sommet se perd dans les nuages, ses cascades gracieuses jaillissant de mille manières différentes, ses vallées profondes, remplies de fougères gigantesques et de bruyères roses. Ah, ma mère chérie, que ces beautés de la nature, répandues à profusion, ont fait de bien à mon âme. Comment elles m'ont élevée vers ce qui s'est plu, vers celui qui s'est plu à jeter de pareils chefs-d'œuvre sur nos terres d'exil, qui ne doit durer qu'un jour. Je n'avais pas assez d'yeux pour regarder. Debout à la portière, je perdais presque la respiration. J'aurais voulu être des deux côtés du wagon, car en me détournant, je voyais des paysages d'un aspect enchanteur et tout différent de ceux qui s'étendaient devant moi. Parfois, nous nous trouvions au sommet d'une montagne, à nos pieds des précipices, dont le regard ne pouvait sonder la profondeur, semblait être prêt à nous engloutir. Ou bien c'était un ravissant petit village avec ses gracieux chalets et son clocher, au-dessus desquels se balançaient mollement quelques nuages éclatants de blancheur. Plus loin, c'était un vaste lac que doraient les derniers rayons du soleil, les flots calmes et purs, empruntant la teinte azurée du ciel qui se mêlait au feu du couchant, présentait à nos regards émerveillés le spectacle le plus poétique et le plus enchanteur qui se puisse voir. Au fond du vaste horizon, on apercevait les montagnes, dont les contours indécis auraient échappé à nos yeux, si leur sommet neigeux que le soleil rendait éblouissant n'était venu ajouter un charme de plus au beau lac qui nous ravissait. En regardant toutes ces beautés, il laissait en mon âme des pensées bien profondes. Il me semblait comprendre déjà la grandeur de Dieu et les merveilles du ciel. La vie religieuse m'apparaissait telle qu'elle est avec ses suggestissements, ses petits sacrifices accomplis dans l'ombre. Je comprenais combien il est facile de se replier sur soi-même, d'oublier le but sublime de sa vocation, et je me disais, plus tard, à l'heure de l'épreuve, lorsque prisonnière au Carmel, je ne pourrais contempler qu'un petit coin du ciel étoilé, je me souviendrai de ce que je vois aujourd'hui. Cette pensée me donnera du courage. J'oublierai facilement mes pauvres petits intérêts en voyant la grandeur et la puissance du Dieu que je vais aimer uniquement. Je n'aurai pas le malheur de m'attacher à des pailles, maintenant que mon cœur a pressenti ce que Jésus réserve à ceux qui l'aiment. Après avoir admiré la puissance du bon Dieu, je puis encore admirer celle qu'il a donnée à ses créatures. La première ville d'Italie que nous avons visitée fut Milan. Sa cathédrale tout en marbre blanc, avec ses statues assez sombres pour former un peuple presque innombrable, fut visitée par nous dans ses plus petits détails. Céline et moi, nous étions intrépides, toujours les premières et suivant directement Monseigneur, afin de tout voir en ce qui concernait les reliques des saints, et bien entendre les explications. Ainsi, pendant qu'il offrait le Saint-Sacrifice sur le tombeau de Saint-Charles, nous étions avec papa derrière l'autel, la tête appuyée sur la chasse, renfermant le corps du saint vêtu des abbés pontificaux. C'était ainsi partout, excepté lorsqu'il s'agissait de monter là où la dignité d'un évêque ne le permettait pas, car lorsque nous avions bien quitté sa grandeur. Laisser les dames timides se cacher la figure dans les mains après avoir gravi les premiers clochetons qui couronnaient la cathédrale, nous suivions les pèlerins les plus hardis et arrivions jusqu'au sommet du dernier clocher de marbre. Nous avions le plaisir de voir à nos pieds la ville de Milan, dont les nombreux habitants ressemblaient à une petite fourmilière. Descendus de notre prédestal, nous commençâmes nos promenades en voiture, qui devaient durer un mois. Je me rassasiais pour toujours de mon désir de rouler sans la fatigue. Le Campo Santo nous ravit encore plus que la cathédrale. Toutes ces statues de marbre blanc qu'un ciseau de génie semble avoir animé sont placées sur le vaste champ des morts, avec une sorte de négligence, ce qui pour moi augmente leur charme. On serait tenté de consoler les idéaux personnages qui nous entourent. Leurs expressions est si vraie, leur douleur si calme et si résignée qu'on ne peut s'empêcher de reconnaître les pensées d'immortalité qui doivent remplir le cœur des artistes exécutant ces chefs-d'œuvre. Ici, c'est une enfant jetant des fleurs sur la tombe de ses parents. Le marbre semble avoir perdu sa pesanteur et les pétales délicats paraissent glisser entre les doigts de l'enfant. Le vent paraît déjà les disperser. Il paraît aussi faire flotter le voile léger des veuves et les rubans dont sont ornés les cheveux des jeunes filles. Papa était aussi ravi que nous. Ensuite, il avait été fatigué, mais, alors que sa gaieté ayant reparu, il jouissait du beau spectacle que nous contemplions. Son âme d'artiste se révélait dans les expressions de foi et d'admiration qui paraissaient sur son beau visage. Un vieux monsieur français, qui sans doute n'avait pas l'âme aussi poétique, nous regardait du coin de l'œil et disait avec mauvaise humeur, tout en ayant l'air de regretter de ne pas pouvoir partager notre admiration. Ah, que les Français sont donc enthousiastes! Je crois que ce pauvre monsieur aurait mieux fait de rester chez lui, car il ne m'a pas paru être content de son voyage. Il se trouvait souvent près de nous et toujours des plaintes sortaient de sa bouche. Il était mécontent des voitures, des hôtels, des personnes, des villes, enfin de tout. Papa, avec sa grandeur d'âme habituelle, essayait de le consoler, lui offrait sa place, etc. Enfin, il se trouvait toujours bien partout, étant d'un caractère directement opposé à celui de son désobligeant voisin. Ah, que nous avions vu des personnages différents. Quelle intéressante étude que celle du monde, quand on est prêt de les quitter. À Venise, la scène changea complètement. Au lieu du bruit des grandes villes, on entend au milieu du silence que les cris des gondoliers et le murmure de l'onde agitée par les rames. Venise n'est pas sans charme, mais je trouve cette ville triste. Les palais des doges est splendide. Cependant, il est triste, lui aussi avec ses vastes appartements, où s'étalent l'or, le bois, les marbres les plus précieux et les peintures des plus grands maîtres. Depuis longtemps, ces voûtes sonores ont cessé d'entendre la voix des gouverneurs qui prononçaient les arrêts de vie et de mort dans les salles que nous avons traversées. Ils ont cessé de souffrir, les malheureux prisonniers enfermés par les doges, dans les cachots et les oubliettes souterraines. En visitant ces affreuses prisons, je me croyais au temps des martyrs, et j'aurais voulu pouvoir y rester afin de les imiter. Mais il fallut promptement en sortir et passer sur le pont des soupirs, ainsi appelé à cause des soupirs et le soulagement que poussaient les condamnés en se voyant délivrés de l'horreur des souterrains auxquels ils préféraient la mort. Après Venise, nous sommes allés à Padoue, où nous avons vénéré la langue de Saint-Antoine, puis à Bologne, Sainte-Catherine qui garde l'empreinte du baiser de l'enfant Jésus. Il y a bien des détails intéressants que je pourrais donner sur chaque ville et sur les mille petites circonstances particulières de notre voyage, mais je n'en finirai pas. Aussi, je ne vais écrire que les détails principaux. Ce fut avec joie que je quittai Bologne, Cette ville m'était devenue insupportable par les étudiants dont elle est remplie et qui formaient une haie quand nous avions le malheur de sortir à pied. Et surtout à cause de la petite aventure qui m'est arrivée avec l'un d'eux. Je fus heureuse de prendre la route de Lorette. Je ne suis pas surprise que la Sainte Vierge ait choisi cet endroit pour y transporter sa maison bénie. La paix, la joie, la pauvreté y règnent en souveraine. Tout est simple et primitif. Les femmes ont conservé leur gracieux costume italien et n'ont pas, comme celles des autres villes, adopté la mode de Paris. Enfin, Lorette m'a charmée. Que dirais-je de la Sainte Maison ? Et mon émotion a été profonde en me trouvant sous le même toit que la Sainte Famille, en contemplant les murs sur lesquels Jésus avait fixé ses yeux divins, en foulant la terre que Saint Joseph avait arrosée de sueur, où Marie avait porté Jésus entre ses bras, après l'avoir porté dans son sein virginal. J'ai vu la petite chambre où l'ange descendit auprès de la Sainte Vierge. J'ai déposé mon chapelet dans la petite écuelle de l'enfant Jésus. Que ces souvenirs sont ravissants. Mais notre plus grande consolation fut de recevoir Jésus lui-même dans sa maison, et d'être son temple, vivant au lieu même qu'il avait honoré de sa présence. Suivant un usage d'Italie, les saints s'y boire se conservent dans chaque église que sur un autel. Et là seulement, on peut recevoir la Sainte Communion. Cet autel était dans la basilique, même où se trouve la Sainte Maison, renfermée comme un diamant, précieux, dans un écrin de marbre blanc. Cela ne fit pas notre bonheur, c'était dans le diamant lui-même, et non pas dans l'écrin que nous voulions faire la communion. Papa, avec sa douceur ordinaire, fit comme tout le monde. Mais Céline et moi, allâmes trouver un prêtre qui nous accompagnait partout, et qui justement se préparait à célébrer sa messe dans la Santa Casa, par un privilège spécial. Il demanda deux petites hosties, qu'il plaça sur sa patène, avec sa grande hostie, et vous comprenez, ma mère chérie, quel fut notre ravissement de faire toutes les deux la Sainte Communion dans cette maison bénie. C'est un bonheur tout céleste, que les paroles sont impuissantes à traduire. Que sera donc... Quand nous recevrons la communion dans l'éternelle demeure du roi des cieux. Alors nous ne verrons plus finir notre joie. Il n'y aura plus la tristesse du départ. Et pour emporter un souvenir, il ne nous sera pas nécessaire de gratter furtivement les murs sanctifiés par la présence divine, puisque sa maison sera la nôtre pour l'éternité. Il ne veut pas nous donner celle de la terre. Il se contente de nous la montrer, pour nous faire aimer la pauvreté et la vie cachée. Celle qui nous réserve est son palais de gloire, où nous ne le verrons plus caché sous l'apparence d'un enfant ou d'une blanche hostie, mais tel qu'il est, dans l'éclat de la splendeur infinie. C'est maintenant de Rome qu'il me reste à parler. De Rome, but de notre voyage, là où je croyais rencontrer la consolation, mais où je trouvais la croix. À notre arrivée, il faisait nuit, et nous étant endormis, nous fûmes réveillés par les employés de la gare qui criaient « Roma, Roma !» C'était pas un rêve, j'étais à Rome. La première journée se passa hors les murs, et ce fut peut-être la plus délicieuse, car tous les monuments ont conservé leur cachet d'antiquité, au lieu qu'au centre de Rome, l'on pourrait se croire à Paris, en voyant la magnificence des hôtels et des magasins. Cette promenade dans les campagnes romaines m'a laissé un bien doux souvenir. Je ne parlerai point de ces lieux que nous avons visités, il y a assez de livres qui les décrivent, dans toute leur étendue, mais seulement des principales impressions que j'ai ressenties. Une des plus douces fut celle qui me fit tressaillir à la vue du Colisée. Je la voyais donc enfin, cette arène, où tant de martyrs avaient versé leur sang pour Jésus. Déjà, je m'apprêtais à baiser la terre qu'ils avaient sanctifiée. Mais quelle déception ! Le centre n'est qu'un amas de décombres que les pèlerins doivent se contenter de regarder, car une barrière en défend l'entrée. D'ailleurs, personne n'est tenté d'essayer de pénétrer au milieu de ces ruines. Fallait-il être venu à Rome sans descendre au Colisée ? Cela me paraissait impossible. Je n'écoutais plus les explications du guide. Une seule pensée m'occupait, descendre dans l'arène. Voyant un ouvrier qui passait avec une échelle, je fus sur le point de le lui demander. Heureusement, je ne mis pas mon idée à exécution car elle m'aurait prise pour une folle. Il est dit dans l'évangile que Madeleine, restant toujours auprès du tombeau et se baissant à plusieurs reprises pour regarder à l'intérieur, finit par voir deux anges. Comme elle. Tout en ayant reconnu l'impossibilité de voir mes désirs réalisés, je continuais de me baisser vers les ruines, où je voulais descendre. À la fin, je n'y vis pas d'ange, mais ce que je cherchais, je poussai un cri de joie disant à Céline, « Viens vite ! Nous allons pouvoir passer !» Aussitôt nous franchissons la barrière que les décombres atteignaient en cet endroit, et nous voilà escaladant les ruines qui croulaient sous nos pas. Papa nous regardait tout étonné de notre audace, Bientôt, il nous dit de revenir, mais les deux fugitifs n'entendaient plus rien. De même que les guerriers sentent leur courage augmenter au milieu du péril, ainsi notre joie grandissait en proportion de la peine que nous avions pour atteindre l'objet de notre désir. Céline, plus prévoyante que moi, avait écouté le guide, et se rappelant qu'il venait de signaler un certain petit pavé croisé, comme étant celui où combattaient les martyrs, se mit à le chercher. Bientôt, l'ayant trouvé et nous étant agenouillés sur cette terre sacrée, nos âmes se confondirent en une même prière. Mon cœur battait bien fort lorsque mes lèvres s'approchèrent de la poussière, empourprées du sang des premiers chrétiens. Je demandais la grâce d'être aussi martyr pour Jésus, et je sentis au fond de mon cœur que ma prière était exaucée. Tout ceci fut accompli en très peu de temps. Après avoir pris quelques pierres, nous revîmes vers les murs en ruine pour recommencer notre périlleuse entreprise. Papa, nous voyant si heureuses, ne put pas nous regarder, et je fis bien qu'il était fier de notre courage. Le bon Dieu nous protégea visiblement, car les pèlerins ne s'aperçurent pas de notre entreprise, étant plus loin que nous, occupés à regarder sans doute les magnifiques arcades où le guide faisait remarquer les petits cornichons et les cupides posés dessus. Aussi, ni lui, ni messieurs les abbés, ne connurent la joie qui remplissait nos cœurs. Les catacombes m'ont aussi laissé une bien douce impression. Elles sont telles que je me les étais figurées en lisant leur description dans la vie des martyrs. Après y avoir passé une partie de l'après-midi, il me semblait y être seulement depuis quelques instants, tant l'atmosphère qu'on y respire me paraissait embaumée. Il fallait bien remporter quelques souvenirs des catacombes. Aussi, ayant laissé la procession s'éloignait un peu. Céline et Thérèse se coulèrent ensemble, jusqu'au fond de l'ancien tombeau de Sainte-Cécile, et prirent de la terre sanctifiée par sa présence. Avant mon voyage de Rome, je n'avais pour cette sainte aucune dévotion particulière. Mais en visitant sa maison, changée en église, le lieu de son martyre, en apprenant qu'elle avait été proclamée reine de l'harmonie, non pas à cause de sa belle voix, ni de son talent pour la musique, mais en mémoire du chant virginal, qu'elle fit entendre à son époux céleste, caché au fond de son cœur. Je sentis pour elle plus que de la dévotion, une véritable tendresse d'amie. Elle devient ma sainte de prédilection, ma confidente intime. Tout en elle me ravit, surtout son abandon, sa confiance, illimitée, qui l'ont rendue capable de virginiser des âmes, n'ayant jamais désiré d'autre joie que celle de la vie présente. Sainte Cécile est semblable à l'épouse des cantiques. En elle, je vois un cœur dans un camp d'armée. Sa vie n'a pas été autre chose qu'un chant mélodieux, au milieu même des plus grandes épreuves, et cela ne m'étonne pas, puisque l'évangile sacré reposait sur son cœur, et que de son cœur reposait l'époux des vierges. La visite à l'église Sainte-Agnès fut aussi une bien douce. C'était une amie d'enfance que j'allais visiter chez elle. Je lui parlai longuement de celle qui porte si bien son nom. Et je fis tous mes efforts pour obtenir une des reliques de l'angélique patronne de ma mère chérie, afin de la lui rapporter. Mais il nous fut impossible d'en avoir d'autre qu'une petite pierre rouge qui se détacha d'une riche mosaïque, dont l'origine remonte au temps de Sainte Agnès, et qu'elle a dû souvent regarder. N'est-ce pas charmant que l'aimable sainte donna elle-même ce que nous cherchions, et qu'il nous était interdit de prendre. J'ai toujours regardé cela comme une délicatesse et une preuve de l'amour avec lequel la douce Sainte Agnès regarde et protège ma mère chérie. Ces jours se passèrent à la visiter les principales merveilles de Rome, et ce fut le 7e que je vis la plus grande de toutes, Léon XIII. Ce jour je le désirais et je le redoutais en même temps. C'était celui que ma vocation dépendait. Car la réponse que je devais recevoir de Monseigneur n'était pas arrivée, et j'avais appris par une lettre de vous, ma mère, qu'il n'était plus très bien disposé pour moi. Aussi, mon unique planche du salut était la permission du Saint-Père. Et pour l'obtenir, il fallait la demander. Il fallait, devant tout le monde, oser parler au pape. Cette pensée me faisait trembler. Ce que j'ai souffert avant l'audience, le bon Dieu seul le sait, avec ma mère, ma chère Céline. J'aimais, je n'oublierai la part qu'elle a prise avec toutes mes épreuves. Il semblait que ma vocation était la sienne. Notre amour mutuel était remarqué par les prêtres du pèlerinage. Un soir, étant en société, si nombreuses que les sièges manquaient, Céline me prit sur ses genoux, et nous nous regardions si gentiment qu'un prêtre s'écria « Comme elle s'aime ! Ah, jamais ces deux sœurs ne pourront se séparer !» Oui, nous nous aimions, Mais notre affection était si pure et si forte que la pensée de la séparation ne nous troublait pas, car nous sentions que rien, même l'océan, ne pourrait nous éloigner l'une de l'autre. Céline voyait avec quel calme ma petite nacelle abordée au rivage du Camel. Elle se résignait à rester aussi longtemps que le bon Dieu voudrait sur la mer orageuse du monde, sûre d'aborder à son tour sur la rive, objet de notre désir. Le dimanche 20 novembre, après nous être habillés suivant le cérémonial du Vatican, c'est-à-dire en noir, avec une mantille de dentelle pour coiffure, et nous être décorés d'une large médaille de Léon XIII, suspendue avec un rayon ruban bleu et blanc, nous avons fait notre entrée au Vatican dans la chapelle du souverain pontife. À 8 heures, notre émotion fut profonde en le voyant entrer pour célébrer la Sainte Messe. Après avoir béni les nombreux pèlerins réunis autour de lui, il gravit les degrés du Saint-Autel et nous montra par sa piété digne du vicaire de Jésus qu'il était véritablement le Saint-Père. Mon cœur battait bien fort et mes prières étaient bien ardentes pendant que Jésus descendait entre les mains de son pontife. Cependant, j'étais rempli de confiance. L'évangile de ce jour renfermait ses ravissantes paroles. Ne craignez pas, petit troupeau, car il a plu à mon Père de vous donner son royaume. Non, je ne craignais pas. J'espérais que le royaume du Carmel m'appartiendrait bientôt. Je pensais pas alors à ces autres paroles de Jésus. Je vous prépare mon royaume que mon Père me l'a préparé. C'est-à-dire, je vous réserve des croix et des épreuves. C'est ainsi que vous serez digne de posséder ce royaume, après lequel vous soupirez, puisqu'il a été nécessaire que le Christ souffrit et qu'il entra par là dans sa gloire. Si vous désirez avoir des places à ses côtés, buvez le calice qu'il a bu, lui-même. Ce calice, il me fut présenté par le Saint-Père, et mes larmes se mêlèrent à l'amer breuvage qui m'était offert. Après la messe d'action de grâce qui suivit celle de sa sainteté, l'audience commença. Léon XIII était assis sur un grand fauteuil. Il avait été vêtu simplement d'une soutane blanche, d'un camail de même couleur et n'avait sur la tête qu'une petite calotte. Autour de lui se tenaient des cardinaux, archevêques et évêques. Mais je ne les ai vus qu'en général, étant occupé du Saint-Père. Nous passions devant lui en procession. Chaque pèlerin s'agenouillait à son tour, baisait le pied et la main de Léon XIII, recevait sa bénédiction, et deux gardes nobles le touchaient par cérémonie, lui indiquant par là de se lever. Le pèlerin, car je m'explique si mal qu'on pourrait croire que c'était le pape. Avant de pénétrer dans l'appartement pontifical, j'étais bien résolue à parler. Mais je sentis mon courage faiblir en voyant à la droite du Saint-Père, Monseigneur Everoni. Parce qu'au même instant, on nous dit de sa part qu'il défendait de parler à Léon XIII. L'audience se prolongea trop longtemps. Je me tournai vers ma Céline chérie afin de savoir son avis. « Parle !» me dit-elle. Un instant après, j'étais au pied du Saint-Père. Ayant baisé sa mule, il me présentait sa main, mais au lieu de la baiser, je joignis les miennes. Et levant vers son visage, mes yeux baignés de larmes, je me criai, « Très Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. » Alors le souverain pontife baissa la tête vers moi, de manière que ma figure touchait presque la sienne. Et je vis ses yeux noirs fixés et profonds se fixer sur moi et semblaient me pénétrer jusqu'au fond de l'âme. « Très Saint-Père, lui dis-je, en l'honneur de votre jubilé, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. » L'émotion avait sans doute fait trembler ma voix. Aussi me retournant vers Monseigneur Everoni, qui me regardait avec un étonnement et un mécontentement, le Saint-Père dit « Je ne comprends pas très bien. Si le bon Dieu lui permit, il eût été facile que Monseigneur Everoni m'obtint ce que j'ai désiré, mais c'était la croix et non la consolation qu'il voulait me donner. « Très Saint-Père, répondit le grand vicaire, c'est une enfant qui désire entrer au Carmel à 15 ans. Mais les supérieurs examinent la question en ce moment. Eh bien, mon enfant, répondit le Saint-Père en me regardant avec bonté, faites ce que les supérieurs vous diront. M'appuyant alors les mains sur ses genoux, je tentai un dernier effort et je dis d'une voix suppliante, ô très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. Il me regarda fixement et prononça ces mots en appuyant sur chaque syllabe. Allons, allons. Vous entrerez si le bon Dieu le veut. Son accent avait quelque chose de si pénétrant et de si convaincu qu'il me semble encore l'entendre. La bonté du Saint-Père m'encourageant, je voulais encore parler, mais les deux gardes nobles me touchèrent poliment pour me faire lever. Voyant que cela ne suffisait pas, ils me prirent par les bras et Monseigneur Everoni leur aida à me soulever car je restais encore les mains jointes, appuyées sur ses genoux. et ce fut de force qu'ils m'arrachèrent de ses pieds. Au moment où j'étais ainsi enlevée, le Saint-Père posa sa main sur mes lèvres, puis il la leva pour me bénir. Alors mes yeux se remplirent de larmes, et Monseigneur Evagneroni put contempler au moins autant de diamants qu'il en avait vus à Bayeux. Les deux gardes nobles me portèrent pour ainsi dire jusqu'à la porte, et là, un troisième me donna une médaille de Léon XIII. Céline, qui me suivait, avait été témoin de la scène qui venait de se passer. Presque aussi émue que moi, elle eut cependant le courage de demander au Saint-Père une bénédiction pour le Carmel. Monseigneur Révoroni, d'une voix mécontente, répondit « Il est déjà béni, le Carmel. » Le bon Saint-Père reprit avec douceur « Oh oui, il est déjà béni. » Avant nous, papa était venu aux pieds de Léon XIII, avec les messieurs. Monseigneur Révoroni avait été charmant pour lui, le présentant comme le père de deux carmélites. Le souverain pontife, en signe de particulière bienveillance, posa la main sur la tête vénérable de mon roi chéri, semblant ainsi le marquer d'un sceau mystérieux, au nom de celui dont il est le véritable représentant. Ah, maintenant qu'il est au ciel, ce père de quatre carmélites, ce n'est plus la main du pontife qui repose sur son front, lui prophétisant le martyr. C'est la main de l'époux des vierges, du roi de gloire qui fait resplendir la tête de son fidèle serviteur. Et plus jamais cette main adorée ne cessera de reposer sur le front qu'elle a glorifié. Mon papa chéri eut bien de la peine de me trouver tout en larmes au sortir de l'audience. Il fit tout ce qu'il put pour me consoler, mais en vain. Au fond du cœur, je sentis une grande paix, parce que j'avais fait absolument tout ce qui était en mon pouvoir de faire pour répondre à ce que le bon Dieu demandait de moi. Mais cette paix était au fond de l'amertume, remplissait mon âme, car Jésus se taisait. Il semblait absent. Rien ne me révélait sa présence. Ce jour-là encore, le soleil n'osa pas briller, le beau ciel bleu d'Italie, chargé de nuages sombres, ne cessa de pleurer avec moi. Ah, c'était fini. Mon voyage n'avait plus aucun charme à mes yeux, puisque le but en était manqué. Cependant, les dernières paroles du Saint-Père auraient dû me consoler. N'étaient-elles pas en effet une véritable prophétie, malgré tous les obstacles que le bon Dieu a voulu s'accomplir? Il n'a pas permis aux créatures de faire ce qu'elles voulaient, mais sa volonté à lui. Depuis quelque temps, je m'étais offerte à l'enfant Jésus pour être son petit jouet. Je lui avais dit de ne pas se servir de moi comme d'un jouet de prix que les enfants se contentent de regarder sans oser y toucher, mais comme d'une petite balle de nulle valeur qu'il pouvait jeter à terre, pousser du pied, percer, laisser dans un coin ou bien presser sur son cœur, si cela lui faisait plaisir. En un mot, je voulais amuser le petit Jésus, lui faire plaisir, je voulais me livrer à ses caprices enfantins. Il avait exaucé ma prière. À Rome, Jésus perça son petit jouet. Il voulait voir ce qu'il y avait dedans, et puis l'ayant vu, content de sa découverte, il laissa tomber sa petite balle et s'endormit. Que fit-il pendant son doux sommeil, et que devint la petite balle abandonnée? Jésus rêva qu'il s'amusait encore avec son jouet, le laissant et le prenant tour à tour, et puis, qu'après l'avoir fait rouler bien loin, il le pressait sur son cœur, ne permettant plus qu'il s'éloigne jamais de sa petite main. Vous comprenez, ma mère chérie, combien la petite balle était triste de se voir par terre. Cependant, je ne cessais d'espérer contre toute espérance. Quelques jours après l'audience du Saint-Père, papa étant allé voir le bon frère Siméon, trouva chez lui Monseigneur Révoroni, qui était très aimable. Papa lui reprocha gaiement de ne pas avoir aidé dans ma difficile entreprise, puis il raconta l'histoire de sa reine au frère Siméon. Le vénérable vieillard écouta son récit avec beaucoup d'intérêt. En prit même des notes, et dit avec émotion, « Ne vois pas cela en Italie. » Je crois que cette entrevue fit une très bonne impression à Monsieur Révoroni. Dans la suite, il ne cessa de me prouver qu'il était enfin convaincu de ma vocation. Au lendemain de ma mémorable journée, il nous fallut partir dès le matin pour Naples et Pompéi. À notre honneur, le Vésuve fit du bruit toute la journée, laissant avec ses coups de canon échapper une épaisse colonne de fumée. Les traces qu'il a laissées sur les ruines de Pompéi sont effrayantes. Elles montrent la puissance de Dieu, qui regarde la terre et la fait trembler, qui touche les montagnes et les réduit en fumée. J'aurais aimé à me promener seul au milieu des ruines, à rêver sur la fragilité des choses humaines, mais le nombre des voyageurs enlevait une grande partie du charme mélancolique de la cité détruite. À Naples, ce fut tout le contraire. Le grand nombre de voitures à deux chevaux rendit magnifique notre promenade au monastère San Martino, placé sur une haute colline, dominant toute la ville. Malheureusement, les chevaux qui nous conduisaient prenaient à chaque instant les morts aux dents. Et plus d'une fois, je me suis cru à ma dernière heure. Le cocher avait beau répéter constamment la parole magique des conducteurs italiens, « A pipo, a pipo !» Les pauvres chevaux voulaient renverser la voiture. Enfin, grâce au secours de nos anges gardiens, nous arrivâmes à notre magnifique hôtel. Pendant tout le cours de notre voyage, nous avons été logés dans les hôtels princiers. Jamais je n'avais été entourée de tant de luxe. C'était bien le cas de le dire, que la richesse ne fait pas le bonheur. Quelle j'aurais été plus heureuse, sous un toit de chaume, avec l'espérance du Carmel, qu'auprès des lambris dorés, des escaliers de marbre blanc, des tapis de soie, avec l'amertume dans le cœur. Un seul et bien senti la joie ne se trouva pas dans les objets qui nous entourent. Elle se trouve au plus intime de l'âme. On peut si bien la posséder dans une prison que dans un palais. La preuve, c'est que je suis plus heureuse au Carmel, même au milieu des épreuves intérieures et extérieures que dans le monde, entourée des commodités de la vie, et surtout des douceurs du foyer paternel. J'avais l'âme plongée dans la tristesse, cependant à l'extérieur j'étais la même, car je croyais cacher la demande que j'avais faite au Saint-Père. Tantôt je pus me convaincre du contraire. Étant restée seule dans le wagon avec Céline, les autres pèlerins étaient descendus au buffet pendant les quelques minutes d'arrêt. J'ai vu Monsieur Legout, vicaire général de Coutances, ouvrir la portière et me regardant, riant, il me dit « Eh bien, comment va notre petite carmélite ?» Je compris alors que sous le pèlerinage, je savais mon secret. Heureusement, personne ne m'en parla, mais je vis à la manière sympathique dont on me regardait que ma demande n'avait pas produit un mauvais effet. Au contraire, à la petite ville d'Assise, j'eus l'occasion de monter dans la voiture de Monseigneur Eberoni. Faveur qui fut accordée à aucune dame pendant tout le voyage. Voici comment j'obtins ce privilège. Après avoir visité les lieux embaumés par les vertus de Saint-François et de Sainte-Claire, nous avions terminé par le monastère Sainte-Agnès, sœur de Sainte-Claire. J'avais contemplé à mon aise la tête de Sainte. Lorsque me retirant une des dernières, je m'aperçus avoir perdu ma ceinture. Je la cherchais au milieu de la foule. Un prêtre eut pitié de moi et m'aida. Après me l'avoir trouvée, je le vis s'éloigner et je restai seule à la chercher, car j'avais bien la ceinture, mais impossible de la mettre, la boucle manquait. Enfin, je la vis briller dans un coin, la saisir et l'ajuster au ruban ne fut pas long, mais le travail précédent l'avait été davantage. Aussi mon étonnement fut grand de me trouver seule auprès de l'église. Toutes les nombreuses voitures avaient disparu, à l'exception de celle de Monseigneur Eberoni. Quelle partie prendre ? Fallait-il courir après les voitures que je ne voyais plus, m'exposer à manquer le train et mettre mon papa chéri dans l'inquiétude, ou bien demander une place dans la calèche de M. Revenu. Je me décidai à cette dernière partie. Avec mon air le plus gracieux et le moins embarrassé possible, malgré mon extrême embarras, je lui exposai ma situation critique et le mis dans l'embarras lui-même, car sa voiture était garnie de messieurs les plus distingués du pèlerinage. Pas moyen de trouver une place de plus. Mais un monsieur très galant se hâta de descendre, me fit monter à sa place et se plaça modestement auprès du cocher. Je ressemblais à un écureuil pris dans une ratière, et j'étais loin d'être à mon aise, entouré de tous ces grands personnages et surtout des plus redoutables, en face duquel j'étais placé. Il fut cependant très aimable pour moi, interrompant de temps en temps sa conversation avec les messieurs pour me parler du Carmel. Avant d'arriver à la gare, tous les grands personnages tirèrent leurs grands porte-monnaie afin de donner de l'argent au cocher, déjà payé. Je fis comme eux et pris mon tout petit porte-monnaie, mais Monsieur Eberoni ne consentit pas à ce que j'en fisse sortir des jolies petites pièces. Il aima mieux en donner une grande pour nous deux. Une autre fois, je me trouvai à côté de lui en omnibus. Il fut alors plus aimable et me promit de faire tout ce qu'il pourrait afin que j'entre au Carmel. Tout en mettant un peu de baume sur mes plaies, ce petite rencontre n'apercevra le retour d'être beaucoup moins agréable que l'aller, car je n'avais plus l'espoir du Saint-Père. Je ne trouvais aucun secours sur la terre qui me paraissait un désert aride et sans eau. Toute mon espérance était dans le bon Dieu seul. Je venais de faire l'expérience qu'il vaut mieux avoir recours à lui qu'à des saints. La tristesse de mon âme ne m'empêcha pas de prendre un grand intérêt au Saint-Dieu que nous visitions. À Florence, je fus heureuse de contempler Sainte-Madeleine de Paty, au milieu du cœur des carmélites qui nous ouvrirent la ville, la grande grille. Comme nous ne savions pas jouir de ce privilège et beaucoup de personnes désirant faire toucher leur chapelet au tombeau de la Sainte, il n'y avait que moi qui puisse passer la main dans la grille qui nous en séparait. Aussi tout le monde m'apportait des chapelets et j'étais bien fière de mon office. Il fallait toujours que je trouve le moyen de toucher à tout, Ainsi, dans l'église de la Sainte-Croix, en Jérusalem, de Rome, le pume vénérait plusieurs morceaux de la vraie croix. Deux épines et l'un des clous sacrés renfermés dans un magnifique reliquaire d'or, ouvragé, mais sans verre. Aussi, je trouvais moyen, en vénérant la précieuse relique, de couler mon petit doigt dans une des joues, dans un des joues de reliquaire, et je pus toucher au clou qui fut baigné du sang de Jésus. J'étais vraiment trop audacieuse. Heureusement, le bon Dieu qui voit le fond des cœurs sait que mon intention était pure, et que pour rien au monde, je n'aurais voulu lui déplaire. J'agissais avec lui comme un enfant qui se croit tout permis, et regarde les trésors de son père comme les siens. Je ne puis encore comprendre pourquoi les femmes sont si facilement excommuniées en Italie. À chaque instant, on nous disait « N'entrez pas ici, n'entrez pas là, vous seriez excommuniées. » Ah, les pauvres femmes, comme elles sont méprisées, cependant elles aiment le bon Dieu, en bien plus grand nombre que les hommes. Et pendant la passion de notre Seigneur, les femmes eurent plus de courage que les apôtres, puisqu'elles bavèrent, bravèrent les insultes des soldats, et osèrent essuyer la face adorable de Jésus. C'est sans doute pour cela qu'il permet que le mépris soit leur partage sur la terre, puisqu'il l'a choisi pour lui-même. Au ciel, il sera bien montré que ses pensées ne sont pas celles des hommes, car alors les dernières seront les premières. Plus d'une fois pendant le voyage, je n'ai pas eu la patience d'attendre le ciel pour être la première. Un jour, que nous visitions un monastère des Carmes, ne me contentant pas de suivre les pèlerins dans les galeries extérieures, je m'avançais sous les cloîtres intérieurs. Tout à coup, je vis un bon vieux Carme, qui de loin me faisait signe de m'éloigner. Mais au lieu de m'en aller, je m'approchai de lui et, montrant les tableaux du cloître, je lui fis signe qu'il les était joués. Il reconnut sans doute à mes cheveux, dans le dos et à mon air jeune, que j'étais une enfant. Il me sourit avec bonté et s'éloigna, voyant que je n'avais pas une ennemie devant lui. Si je n'avais pu lui parler italien, je lui aurais dit être une future carmélite. Mais à cause des constructeurs de la tour de Babel, cela me fut impossible. Après avoir encore visité Pise et Gênes, nous revînmes en France. Sur le parcours, la vue était magnifique. Tantôt nous longions la mer, et le chemin de fer en était si près qu'il me semblait que les vagues allaient arriver jusqu'à nous. Ce spectacle fut causé par une tempête. C'était le soir, ce qui rendait la scène encore plus imposante. Tantôt, des plaines couvertes d'orangers aux fruits mûrs, des verts oliviers aux feuillages légers, des palmiers gracieux. À la tombée du jour, nous voyons les nombreux petits ports de mer s'éclairer d'une multitude de lumières, pendant qu'au ciel scintillaient les premières étoiles. À quelle poésie remplissait mon âme à la vue de toutes ces choses que je regardais pour la première fois et la dernière fois de ma vie. C'était sans regret que je les voyais s'évanouir. Mon cœur aspirait à d'autres merveilles. Il avait assez contemplé les beautés de la terre. Celle du Seigneur était l'objet de ses désirs, et pour les donner aux âmes, je voulais devenir prisonnière. Avant de voir s'ouvrir devant moi les portes de la prison bénie, après laquelle je soupirais, il me fallait encore lutter et souffrir. Je le sentais en revenant en France. Cependant, ma confiance était si grande que je ne cessais pas d'espérer qu'il me serait permis d'entrer le 25 décembre. À peine arrivés à Lisieux, notre première visite fut pour le Carmel. Quelle entrevue que celle-là! Nous avions tant de choses à nous dire depuis un mois de séparation. Moi qui m'a semblé plus long et pendant lequel je n'ai plus appris que pendant plusieurs années. Ô ma mère chérie, qu'il m'a été doux de vous revoir, de vous ouvrir ma pauvre petite âme blessée. À vous qui saviez si bien me comprendre, à qui une parole, un regard suffisait pour tout deviner. Je m'abandonnais complètement. J'avais fait tout ce qui dépendait de moi, tout jusqu'à parler au Saint-Père. Aussi, je n'avais ce que je devais encore faire. Vous me dites d'écrire à mon Seigneur et de lui rappeler sa promesse. Je le fis aussitôt, le mieux qu'il me fut possible, mais dans des termes que mon oncle trouva un peu trop simples. Il refit ma lettre. Au moment où j'allais la faire partir, j'en reçus une de vous, me disant de ne pas écrire, d'attendre quelques jours. J'obéis aussitôt, car j'étais sûre que c'était le meilleur moyen de ne pas me tromper. Enfin, 10 jours avant Noël, ma lettre partit, bien convaincue que la réponse ne se ferait pas attendre. Je l'ai tous les matins après la messe à la poste avec papa, croyant y trouver la permission de m'envoler. Chaque matin, amener une nouvelle déception qui cependant n'ébranlait pas ma foi. Je demandais à Jésus de briser mes liens. Il les brisa, mais d'une manière toute différente de celle que j'attendais. La belle fête de Noël arriva et Jésus ne se réveilla pas. Il laissa par terre sa petite balle. sans même jeter un regard sur elle. Mon cœur était brisé. En me rendant à la messe de minuit, je comptais si bien y assister derrière les grilles du Carmel. Cette épreuve fut bien grande pour ma foi. Mais celui dont le cœur veille pendant son sommeil me fit comprendre qu'à ceux dont la foi égale un grain de cervelle, le sénévé, il accorde des miracles et fait changer de place les montagnes, afin d'affirmer cette foi si petite. Et pour ses intimes, pour sa mère, il fait pas de miracles avant d'avoir éprouvé leur foi. Ne laissait-il pas mourir Lazare, bien que Marthe et Marie lui aient fait dire qu'il était malade? Aux noces de Cana, la Sainte Vierge ayant demandé à Jésus de secourir ses hôtes, ne lui répondit-il pas que son heure n'était pas encore venue? Mais après l'épreuve, quelle récompense? L'eau se change en vin. Lazare ressuscite. Ainsi Jésus agit-il envers sa petite Thérèse, après l'avoir longtemps éprouvée. Il combla tous les désirs de son cœur. L'après-midi de la radieuse fête passait pour moi dans les larmes. Je vais voir les carmélites. Ma surprise fut bien grande d'apercevoir, lorsqu'on ouvrit la grille, un ravissant petit Jésus tenant en sa main une balle sur laquelle était écrit mon nom. Les carmélites, à la place de Jésus, trop petits pour parler, me chantèrent un cantique composé par ma mère chérie. Chaque parole répandait en mon âme une bien douce consolation. Jamais je n'oublierai cette délicatesse du cœur maternel qui toujours me combla d'une des plus exquises tendresses. Après avoir remercié en répandant de douces larmes, je racontai la surprise que ma Céline chérie m'avait faite en revenant de la messe de minuit. Je l'avais trouvée dans ma chambre, au milieu d'un charmant bassin, un petit navire qui portait le petit Jésus, dormant avec une petite balle près de lui sur la voile blanche. Céline avait écrit ces mots. Je dors, mais mon cœur veille. Et sur le vaisseau, ce seul mot, abandon. Ah, si Jésus ne parlait pas encore à sa petite fiancée, si toujours ses yeux divins restaient fermés du moins, il se révélait à elle par le moyen d'âme, comprenant toutes les délicatesses de l'amour de son cœur. Le premier jour de l'année 1888, Jésus me fit encore présent de sa croix, mais cette fois je fus seule à la porter, car elle fut d'autant plus douloureuse qu'elle était incomprise. Une lettre de Pauline vint m'annoncer que la réponse de Monseigneur était arrivée le 28, fête des saints innocents, mais qu'elle ne me l'avait pas fait savoir, ayant décidé que mon entrée n'aurait lieu qu'après le carême. Je ne pus retenir mes larmes à la pensée d'un si long délai. Cette épreuve eut pour moi un caractère tout particulier. Je voyais mes liens rompus du côté du monde. Et cette fois, c'était l'Arche Sainte qui refaisait son entrée à la pauvre petite colombe. Je veux bien croire que je dus paraître déraisonnable en n'acceptant pas joyeusement mes 3 mois d'exil. Mais je crois aussi que sans le paraître, cette épreuve fut très grande et me fit beaucoup grandir dans l'abandon et dans les autres vertus. Comment se passèrent ces 3 mois si riches en grâce pour mon âme? D'abord, il me vint à la pensée de ne pas me gêner à mener une vie bien réglée, que j'en avais l'habitude, mais bientôt je compris le prix du temps qui m'était offert. Et je résolus de me livrer plus que jamais à une vie sérieuse et mortifiée. Lorsque je dis mortifiée, ce n'est pas afin de faire croire que je faisais des pénitences, hélas. Je n'en ai jamais fait aucune. Bien loin de ressembler aux belles âmes qui, dès leur enfance, pratiquaient toute espèce de mortification, je ne sentais pour elle aucun attrait. Sans doute cela venait de ma lâcheté, car j'aurais pu, comme Céline, trouver 1000 petites inventions pour me faire souffrir. Au lieu de cela, je me suis toujours laissée dans le thé, dans le coton, et empâtée comme un petit oiseau qui n'a pas besoin de faire pénitence. Les mortifications consistaient à briser ma volonté, toujours prête à s'imposer, à retenir une parole de réplique, à rendre de petits services sans les faire valoir, à ne point m'appuyer le dos quand j'étais assise, etc. Ce fut la pratique de ces riens que je préparais à devenir la fiancée de Jésus. Et je ne puis dire combien cette attente m'a laissé le doux souvenir. 3 mois passent bien vite. Enfin, le moment si ardemment désiré arriva.